Voici Red Bull Bora Hans Grohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.rufu@media.eu. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode. Le Tour de France 2026 est terminé. Mathieu Van Der Poel gagne à Paris. Tadej Pogacar est vainqueur du classement général pour la 5e fois. Red Bull Bora Hansgrohe termine à la 2e place du classement général avec Remco Evenepoel, remporte 2 étapes et célèbre le Tour le plus réussi de son histoire. Nous nous connectons une dernière fois cette année en France avec le manager de l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe. Bonjour à Ralf Denk.
Salut et salutations à Rosenheim.
Ralf, nous sommes lundi, 11h30. Où puis-je te joindre ?
Nous sommes sur le chemin du retour, ou plutôt je suis sur le chemin du retour, à l'aéroport Charles de Gaulle et nous prenons l'avion en direction Munich.
Exactement. Alors s'il y a du bruit de fond d'aéroport, veuillez m'en excuser. Alors Ralf, parlons un peu de ce que nous avons vu dimanche, la dernière étape. Que s'est-il passé hier ? Les images étaient impressionnantes.
Les images étaient impressionnantes. Le résultat de la course était aussi impressionnant. Est-ce qu'une échappée va réussir ou y aura-t-il un sprint final? Et un Mathieu Van Der Poel phénoménal qui a sans doute lâché Tadej Pogacar dans les derniers mètres gagne, je crois, avec une demi-roue d'avance sur son coéquipier. C'était du cyclisme pur, une course vraiment géniale et très excitante pour les fans.
Ce qui m'est venu à l'esprit, nous avons parlé de ces étapes de plat interminables. En voyant ce qui s'est passé hier, ne serait-ce pas une alternative. Laissez-moi vous faire part de mes réflexions. On vise par exemple 3 métropoles, on y passe seulement vers 17 heures, l'arrivée est en prime time. Un circuit assez court, conçu pour les sprinteurs et les échappés, comme on l'a vu hier, on pourrait soulager les leaders du classement général avec un chronométrage anticipé. Cela attire les foules dans les villes et permet de toucher un nouveau public. Avec les courtes durées d'attention, plus d'action, plus de spectacle et l'horaire. C'est ce qui m'est venu à l'esprit hier.
C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait discuter. C'est un produit qui serait formidable pour le marketing. Pour moi, le marketing en soi est une priorité car nous voulons, et c'est mon objectif, faire grandir notre sport. D'un autre côté, cette étape d'hier a aussi suscité des discussions controversées. Oui, j'ai regardé la course hier avec Peter Sagan dans notre bus. Peter Sagan, notre ancien coureur, triple champion du monde, il dit... Ah, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop dur de faire la 21e étape avec une telle intensité. Il regrette l'entrée classique dans Paris où l'on célèbre, où la course n'est plus vraiment au premier plan. Il y avait par le passé un sprint. Nous en avons aussi gagné 2 en 2023 avec Jordi Meus, mais cela ne peut pas se comparer à l'étape qui a eu lieu hier. Alors, il y a des avis divergents, mais au final, je pense qu'il faut donner aux fans un vrai droit de parole, car ce sont, après tout, nos clients. Et du point de vue des fans, je comprends tout à fait qu'ils aient célébré la course hier.
Dans mon idée, Thomas, je ne pensais pas forcément à la dernière étape, mais plutôt à remplacer ces étapes de plates qu'on voit toujours sur le Tour par de tels éléments dans les métropoles.
Absolument. Ce serait tout à fait un format style championnat du monde. Les championnats du monde de cyclisme se déroulent toujours sur des circuits et ce serait certainement un format à envisager pour remplacer les étapes de plaine ennuyeuses où nous n'avons pas trouvé d'attaquants. Ou peu, lors du Tour de France de cette année, il ne faut pas remplacer toutes les étapes de plaine, mais peut-être une ou deux.
Bien, passons maintenant de l'organisation aux sportifs. Revenons sur l'étape d'hier. On vous a vu très actif au début. Remco a d'ailleurs tenté sa chance dans Montmartre. N'en pouvait-il plus à la fin ou avez-vous délibérément pris moins de risques ?
Non, nous avons tout donné, tout ce qui nous restait dans le réservoir pour la deuxième ascension de Montmartre et la course l'a franchi 3 fois. Nous avons calculé qu'on pouvait faire une présélection dès le deuxième passage, mais ça n'a pas fonctionné et l'équipe a été très sollicitée pour préparer cette attaque et finalement épuisée. Lors du troisième passage, celui qui s'est avéré décisif, l'équipe et Remco lui-même étaient affaiblis et nous n'avons plus pu suivre les attaques décisives.
Exact, mais je ne pense pas que cela ait gâché l'ambiance de la cérémonie de clôture. C'était comment avez-vous vécu la finale, fêter ça après avoir quitté le vélo? Comment était la cérémonie?
Pour moi, je trouve que le premier rassemblement de l'équipe, de tout le personnel, mais aussi des partenaires et amis au bus juste après l'étape, c'est le moment le plus émouvant. Et au plus beau, et ici, il y a eu du vin, du champagne, de la bière. Ici, il y a eu des pizzas basiques. C'est pour moi, personnellement, le plus beau moment. Nous sommes allés plus tard dans notre lieu d'événement en haut de Montmartre. C'était jusqu'au bout de la nuit et certains ont beaucoup bu, d'autres moins, comme moi. Je suis rentré assez tôt. C'était une vraie fête avec 400 invités. Et on ne sait plus à qui parler. C'est très, très bondé, mais les pilotes ont apprécié et l'essentiel, ce sont les pilotes.
Qui ont, je l'espère, passé une excellente soirée. Alors, avant d'entrer dans les détails, quel est ton bilan global de ce Tour de France 2026?
Oui, alors j'ai commencé en 2014 avec une 7e place au classement général. Nous avons fini 2 fois 5e avec Wilco Kelderman et Alexandre Vlasov. Nous avons été 4e ici avec Emmanuel Buschmann. Nous avons été 3e avec Florian Lipovitz et nous sommes maintenant 2e avec Remco Evenepoel. Mon objectif personnel reste clair. Je veux aussi gagner le Tour de France un jour.
Oui, on ne peut pas faire beaucoup mieux qu'une 2e place. Nous avons vu cette année un Tadej Pogačar vraiment exceptionnel. Pour moi, dans cette configuration, il est imbattable. J'en ai d'ailleurs discuté un peu avec Peter Sagan hier.
Si nous avions dans nos rangs un Vingegaard, un Del Toro, enfin, si nous avions les meilleurs des meilleurs dans notre équipe, ce qui était une discussion hypothétique, mais si nous avions cela, je crois que même avec cette configuration, nous n'aurions pas pu battre Tadej Pogačar sur le Tour de France cette année et donc, disons, très, très heureux de cette 2e place. J'ai aussi regretté l'absence de Florian Lipovitz hier soir. J'étais vraiment désolé pour lui qu'il ne soit pas là, car à mon avis, il aurait été un candidat très sérieux pour le podium. On aurait peut-être même eu un double podium pour Red Bull Bora Hansgrohe, mais tout cela reste spéculatif. Nous savons ce qui est arrivé à Florian Lipovitz et j'espère qu'il reviendra encore plus fort. Je lui souhaite.
Exactement, tu as là les meilleurs parmi les meilleurs et tu y incluras forcément Remco comme il nous l'a montré ces 3 dernières semaines. Est-ce qu'il s'est mis en position pour une ère après Tadej Pogačar? Elle finira bien par arriver. Qu'elle arrive à court, moyen ou long terme, il ne dévoile pas vraiment ses cartes, mais avec une telle performance, surtout en haute montagne, si Pogačar finit par ne plus pouvoir ou ne plus vouloir, s'il n'est plus au niveau actuel, Remco s'est définitivement placé comme un successeur capable de gagner le Tour de France.
On verra bien. Remco a définitivement 2 ans, je crois, de moins que Tadej. Florian est aussi plus jeune. Ce serait bien pour nous s'ils étaient les successeurs, mais il y a aussi Isaac Del Toro qui monte, il y a Paul Seixas qui pousse. J'espère qu'un jour, nos débutants qui courent encore en moins de 23 ans rejoindront aussi le cercle des protagonistes des futurs vainqueurs du Tour de France.
Et oui, ça reste vraiment passionnant.
Exact. 3e place au classement par équipe, et ce, sans le résultat de Florian Lipovitz. Seuls les 3 meilleurs résultats sont pris en compte. Quelle est la signification de cette 3e place au classement par équipe et que nous dit le fait d'y parvenir sans Florian?
Oui, avec Florian, nous aurions très probablement gagné le classement par équipe, car Jai Hindley a tout de même terminé 15e au classement général. Au Tour de France, le classement par équipe a une certaine importance, car toute l'équipe peut monter sur le podium aux Champs-Élysées et ainsi de suite. C'est quelque chose de beau. Je ne l'ai jamais vécu dans ma carrière de manager. J'aurais aimé le vivre, mais ce n'est pas non plus le plus grand des succès. Gagner le classement par équipe, c'est un petit lot de consolation.
Si je peux choisir entre être bien placé au classement général individuel ou porter un maillot distinctif, comme celui de la montagne, du sprint ou du meilleur jeune, alors je laisserai définitivement tomber le classement par équipe. Pour toutes les autres courses, hormis le Tour de France, le classement par équipe joue un rôle très, très secondaire.
On parle évidemment beaucoup et à juste titre de Remco Evenepoel. 7 de vos coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Quel bilan tires-tu de la performance globale de l'équipe? Es-tu pleinement satisfait ou y a-t-il des points que vous espériez meilleurs?
Oui, je pense qu'il est trop tôt pour entrer dans les détails de performance de chaque coureur. Pour commencer, nous avons amené 7 hommes à Paris. Florian a dû abandonner suite à une chute, donc pas pour des raisons de performance. C'est un immense compliment pour les coureurs, mais aussi pour toute l'équipe de performance, car sur un Tour de France, tout se joue à des nuances près. Et si tu fais de petites erreurs, ça se retourne contre toi, tu tombes peut-être malade et tu n'atteins même pas Paris. Et je sais que notre équipe de performance a fourni un travail exceptionnel ces 4 dernières semaines ou 3 semaines et demie et a fait beaucoup, beaucoup de choses correctement. Et c'est finalement le résultat du fait que autant de nos coureurs ont atteint Paris.
Bien, regardons vers l'avenir. Commençons par la planification du personnel, d'abord pour les départs. Qui va vous quitter à la fin de la saison? Que pouvez-vous annoncer officiellement à ce sujet?
Oui, nous ne voulons pas encore en parler publiquement, car il y a ce fameux 1er août, date à laquelle on peut ou on doit annoncer les transferts. Nous voulons respecter cette échéance. Il y aura encore des discussions, que ce soit pour les coureurs que nous voulons recruter ou parce qu'il nous faut absolument faire de la place. C'est pourquoi nous aurons aussi des départs. Mais une chose est sûre, c'est que 4 débutants des moins de 23 ans vont très probablement monter. Et c'est un chiffre qui me rend personnellement très fier que 4 de nos jeunes coureurs réussissent à passer chez les professionnels. Et c'est déjà, oui, une distinction pour ce projet en interne et j'en suis vraiment très heureux.
Exactement, c'est un nom sur lequel on m'interroge sans cesse. Je crois que vous l'aviez confirmé pendant le tour. Le contrat de Primož Roglič ne sera pas prolongé. Pouvez-vous le confirmer ici une nouvelle fois?
Oui, c'est exact. Alors, à l'époque, je n'avais pas ça en tête, car il est désormais clair que Primož va quitter notre équipe et c'est définitivement acté.
Il fera ses adieux lors de la Vuelta, si je suis bien informé. Quel regard portes-tu sur cette période passée avec un nom aussi prestigieux que Primož Roglič?
Non, nous allons tout mettre en œuvre avec lui pour viser la victoire sur la Vuelta maintenant. La Vuelta commence dans 4 semaines et c'est aussi sa course préférée. Il l'a gagnée 4 fois avec une 5e victoire. Il serait le seul détenteur du record et c'est pour nous, pour lui maintenant, le grand objectif. Il va encore disputer une ou deux courses de préparation en Espagne et arrivera, espérons-le, au sommet de sa forme au départ à Monaco dans 4 semaines. Le temps passé avec Primož, nous en sommes très, très reconnaissants. Il y a aussi, dans une certaine mesure, des mauvaises langues qui disent que le transfert n'était plus rentable, car Primož était trop vieux. Primož a gagné la Vuelta pour nous, un grand tour de 3 semaines, et peu d'équipes peuvent prétendre avoir déjà remporté la Vuelta. Il a gagné le Critérium du Dauphiné pour nous, il a gagné le Tour de Catalogne pour nous. Les deux courses me sont également au niveau du World Tour. Donc, il a remporté 3 très grandes victoires pour nous. Et j'espère qu'il n'en restera pas à ces 3-là. Peut-être qu'il en gagnera une ou deux maintenant d'ici la fin de saison. Mais je considérerais ce transfert comme très, très positif. Et
C'est aussi normal à un moment donné, quand tu es à l'automne de ta carrière, de ne peut-être plus être aussi vif et de ne plus pouvoir suivre le cyclisme moderne qui se court de manière très agressive. Mais Primoz est pour moi un champion et a été un énorme atout pour nous dans l'ensemble du projet.
Il sera donc le capitaine sur la Vuelta. Y a-t-il déjà d'autres noms qui sont confirmés pour la Vuelta ou est-ce encore trop tôt?
C'est encore trop tôt. Nous sommes actuellement en stage d'entraînement à Livigno avec l'effectif élargi pour la Vuelta. Et une fois le camp d'entraînement terminé, nous établirons un plan pour décider qui participera finalement. Mais les préparatifs sont en cours à un jour du Tour de France. Cela signifie que nous sommes actuellement plus de 10 coureurs à Livigno et que nous nous préparons très sérieusement pour la Vuelta.
Nous verrons bien. Oui, passons à la suite de la saison. Tu as évoqué la Vuelta comme l'un des grands objectifs. Quels sont les autres objectifs majeurs pour le second semestre?
Oui, nous avons encore les championnats du monde de cyclisme. Remco veut absolument y défendre son titre en contre-la-montre. Il fait aussi partie des favoris pour la course en ligne. J'aimerais vraiment, pour lui aussi, que Florian réussisse à se qualifier pour les championnats du monde. Le plan initial était qu'il y participe. Les championnats du monde sont très importants pour nous. La Vuelta est très importante. Nous avons aussi le World Tour avec le Tour de Pologne, puis les classiques italiennes d'automne avec le Tour de Lombardie comme point culminant.
Ce qui te tenait toujours très à cœur et qui te tient toujours à cœur, c'est la nuit du cyclisme Saluzbrüggen-Müller. Elle n'aura malheureusement pas lieu en 2026, mais ce n'est évidemment pas la fin de cette nuit du cyclisme. Peux-tu nous donner un bref aperçu à ce sujet?
Oui, je ne veux même pas savoir ce que je ferai vendredi prochain, car c'était toujours le point de rendez-vous de la nuit du cyclisme de Brüggen-Müller. Et j'ai grandi à Brüggen-Müller. Mon papa y a toujours consacré beaucoup d'énergie et il a aussi composé le peloton et invité les coureurs. Et il a réussi l'an dernier à faire venir Florian Lipowitz à Brüggen-Müll. Et oui, nous ne pouvons pas courir cette année à cause de travaux sur le parcours. C'est vraiment, vraiment dommage. Nous avons aussi cherché à discuter avec la municipalité pour voir si on pouvait installer un pont provisoire. Il y a un pont ou choisir un autre circuit, mais il n'a pas été facile de trouver un consensus. Le fait est que la nuit du cyclisme de Brüggen-Müller n'aura pas lieu cette année, mais nous avons déjà l'accord de Salus, le sponsor principal, pour organiser l'événement l'an prochain, et nous en sommes tous très heureux.
Et nous en parlerons, je l'espère, plus en détail l'année prochaine. Voilà, Ralph, nous y sommes arrivés. Septième saison d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe. Tout d'abord, un grand, grand merci à tous les auditeurs du podcast. Nous avons encore battu de nouveaux records cette année. C'est grâce à vous tous, l'engouement à travers vos messages, les questions pour toi. Chaque email que j'ai reçu commençait par un grand merci à Ralph Denk. Et là aussi, nous avons eu du mal à suivre. Désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Nous avons fait de notre mieux, mais c'était tout simplement trop à la fin. Alors, et maintenant, au nom de tous les auditeurs et bien sûr aussi au nom de toute l'équipe d'OVB Online, un très, très, très grand merci à toi, cher Ralph, de nous avoir accompagnés pendant 3 semaines sur le Tour, de nous expliquer chaque année le cyclisme et toutes ses facettes, cette folie. Encore et encore. C'est tout sauf une évidence. C'est pourquoi, de ma part et de celle de tous ceux qui ont ce podcast à cœur, un grand merci.
C'est un plaisir à entendre. Un grand merci également aux auditeurs, car ce sont eux qui rendent le produit podcast si important. J'ai pris du plaisir et j'en prends toujours. C'est aussi une partie de ma mission de faire grandir le cyclisme et de l'expliquer en détail. Et c'est aussi pour moi, je dois le dire ici, un certain soulagement, car désormais tant de médias écoutent le podcast et reprennent nos propos que je n'ai plus besoin de parler à autant de monde pendant le tour, car Ralph Denk ne parle que dans le podcast OVB. Et c'est en fait pour moi aussi un soulagement. C'est une distinction pour le projet et je me réjouis déjà de l'édition de l'année prochaine.
Je n'ai rien à ajouter à cela. Je te souhaite un bon retour de France en Allemagne. Encore merci et bonne chance pour la suite de la saison. Et oui, une dernière fois, j'envoie mes salutations en France.
Salutations en retour à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et d'IPEN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.